RFI 8h30 à Paris, 10h30 à Addis Abeba, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec vous, Pierre Boudias.
Inquiétude autour du sort de trois opposants maliens détenus depuis un an et demi. Des militants du mouvement pour la paix au Mali emprisonnés pour avoir dénoncé les exactions de l'armée. Leur avocat demande à la Cour africaine des droits de l'homme d'agir pour leur libération. L'opposant ivoirien Tidjane Thiamba, le rappel de ses troupes, grand meeting hier pour le président du PDCI. À un an de la présidentielle, il espère toujours devenir le candidat de son camp pour ce scrutin. La France relance sa connexion éthiopienne. Le président Emmanuel Macron était à Addis Abeba hier. L'occasion de rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed pour réaffirmer les liens économiques et financiers entre les deux pays. Et puis en Tunisie, le décret loi 54, de plus en plus critiqué, le texte censé lutter contre la désinformation a permis au pouvoir d'arrêter des dizaines de journalistes. Pour la première fois, des députés appellent à sa révision. Au Mali, Moulay Baba Aïdara, Mahoumoud Mohamed Mangane et Amadou Togola, toujours détenus depuis un an et demi. Les trois figures du mouvement pour la paix au Mali, également membres du parti politique Sadi, sont poursuivis notamment pour complot contre la sûreté de l'État, complot contre le gouvernement ou encore atteinte à l'unité nationale et au crédit de l'État. Ils avaient osé dénoncer des exactions de l'armée malienne. La Cour africaine des droits de l'homme a pourtant ordonné leur libération le 29 octobre dernier. Une décision qui n'a pas été mise en œuvre par Bamako. Leur avocate demande donc à présent à la Cour africaine de prendre les mesures nécessaires. Précision David Baché.
Dans sa lettre, Maître Mariam Diawara demande à la Cour africaine des droits de l'homme de rendre une ordonnance pour garantir la libération des trois hommes, voire de saisir la conférence de l'Union africaine. Le 29 octobre dernier, cette Cour avait ordonné leur libération afin notamment qu'ils puissent être soignés. Deux jours plus tard, le juge d'instruction en charge de l'affaire au Mali ordonnait leur mise en liberté d'office pour un autre motif, le non-renouvellement de leur placement sous mandat de dépôt arrivé à terme. Une décision qui n'a pas davantage été exécutée. Baba Moulay Aïdara, Amadou Togola et Mahoumoud Mohamed Mangane ont été victimes de graves tortures, flagellations, scarifications, électrocution des testicules. Enlevés entre le 25 mai et le 23 juin 2023, il y a un an et demi, les trois hommes ont tous été détenus par la sécurité d'État du Mali, au secret, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que leur cas soit enfin transmis à la justice début octobre 2023. Leur faute, avoir dénoncé lors d'une conférence de presse plusieurs cas d'exaction attribués à l'armée malienne. Ce n'était pas pour déstabiliser l'État, explique Maître Diawara. Il s'agissait d'alerter les autorités et de plaider pour la paix. Depuis leur placement sous mandat de dépôt, les trois hommes n'ont, selon leur avocate, jamais été auditionnés par le juge.
David Baché. Le Mali à nouveau visé par des attaques terroristes. Elles ont touché la région de Bandiagara. Au moins 26 personnes ont été tuées de sources communautaires. 15 victimes ont été comptabilisées dans le seul village de Bourari. Les autres l'ont été dans des localités voisines. Des incendies ont également été rapportés. Pas de revendication à ce stade, mais le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, mène régulièrement des attaques dans la zone. L'armée malienne n'a pour le moment pas souhaité commenter. RFI, il est 7h33 Ouagadougou, le Burkina Faso, qui constitue l'un des foyers de peuplement de l'ethnie Peul, l'un des plus importants groupes ethniques du continent. On les retrouve essentiellement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et même jusqu'au Soudan. Ils sont traditionnellement des éleveurs nomades. RFI a choisi ce matin de s'intéresser à l'un des aspects de leur culture, le mariage traditionnel dans les communautés Peul. Comment se déroule-t-il spécifiquement chez les Peul de Barkoundouba au Burkina Faso? Plusieurs cas de figure sont à prendre en compte pour les démarches auprès des familles de mariés. Par exemple, quand un jeune homme ou une jeune fille Peul veut épouser une personne de sa communauté ou d'une autre communauté, certains éléments sont très importants dans le processus. C'est Penaï Traoré qui nous en dit plus.
Plusieurs éléments, notamment la noix de kola, le sel et le soumbala, une épice locale, doivent obligatoirement faire partie du processus de demande en mariage. Issa Diallo, spécialiste des langues et cultures Peul et chercheur à l'Institut des sciences des sociétés au Burkina Faso, nous explique leur symbolique.
C'est des anciennes pratiques qui ne sont plus motivées en tant que telles. Mais nous savons que dans toutes les communautés burkinabées, la kola est présente quand il y a mariage. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez envoyer à tout le monde. Et c'est la même chose pour le soumbala. Je crois que c'est juste parce que c'est facile à transporter. Le sel symbolise la vache. Parce que chez nous, pour traire la vache, il faut lui donner du sel.
Comme chez d'autres communautés, il y a aussi des interdits chez les Peuls. Par exemple, les interdits ethniques. Docteur Issa Diallo.
Si vous prenez notre village, Nos voisins, ce sont les Yarsi, c'est des mots aussi, mais on les appelle Yarsi. Au Mali, on les appellera Wangarbe. Nous avons un marché commun tous les trois jours depuis 300 ans et jamais un des leurs ne s'est amouraché d'une fille peule et jamais une fille peule ne s'est amourachée de leur garçon non plus. On dit c'est interdit, on ne sait même pas pourquoi c'est interdit. C'est des barrières qui vont disparaître tôt ou tard.
Les conditions du mariage traditionnel peuvent être différentes d'une communauté peule à une autre, mais aussi selon les pays.
Le mariage traditionnel chez les communautés peules, c'est le sujet de votre magazine de ce dimanche dans Un jour au village avec Penaï Traoré, à retrouver à partir de 21h10, temps universel sur RFI. En Côte d'Ivoire, cela fait maintenant un an que Tidjane Thiam a pris les rênes du PDCI-RDA, la plus ancienne formation politique du pays. Pour célébrer cet anniversaire, le successeur de Henri Conan Bédié, décédé en août 2023, a animé hier après-midi un meeting à Abouasso, à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Occasion pour l'ex-ministre du plan de communier avec ses partisans. Abdoul Aziz Diallo, notre envoyé spécial sur place, nous fait le récit de ce meeting.
Vêtus de t-shirts aux couleurs du parti, le vert et blanc, les militants et sympathisants du PDCI-RDA ont pris massivement d'assaut la place Elingan d'Abouasso. Objectif, réaffirmer leur soutien à leur leader, Tidjane Thiam. Pour ce militant enthousiaste, l'ancien patron du Crédit Suisse est l'homme de la situation.
Il n'y a pas de doute, c'est le profit qu'il faut. Nous, au PDCI, notre choix, c'est président Tidjane Thiam. Il est notre choix pour pouvoir terrasser le baobab Alassane Ouattara en 2025. Thiam le fera.
Quand Tidjane Thiam fait son entrée, la foule exulte. Dans son discours, il expose sa vision de la Côte d'Ivoire, articulée autour de 5 priorités, avec un accent particulier sur l'éducation et la santé. L'ancien ministre du Plan n'a pas hésité à adresser des critiques aux autorités actuelles.
Nous sommes un pays pauvre et pourtant l'attention aux plus démunis n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. On en veut pour preuve toutes les opérations de démolition des habitations, de déguerpissement sans mesure d'accompagnement social et sans humanisme. L'inflation est intenable. Les prix des denrées alimentaires augmentent.
Concernant la présidentielle de 2025, Tidjane Thiam a plaidé pour une proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Une mesure qu'il estime essentielle pour garantir la transparence du scrutin. Abdelaziz Diallo, Abouasso. RFI.
Le président français Emmanuel Macron a lui achevé hier une tournée de 2 jours dans la Corne de l'Afrique après Djibouti où il a rencontré hier matin le président Ismaïlo Marguélé. Le président français s'est rendu à Addis Abeba pour une visite officielle de quelques heures, sa deuxième dans le pays. Après avoir déposé une gerbe au monument de la bataille d'Adoua, bataille qui signa la victoire retentissante de l'Éthiopie face à l'Italie en 1896, le chef de l'État français s'est rendu au palais national où il s'est entretenu à dîner avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Pierre Fersion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en studio, mais vous rentrez tout juste d'Éthiopie. Le président français a fait plusieurs annonces.
Oui, après avoir participé financièrement à la rénovation du palais national et des églises de la Libella, Paris va appuyer à hauteur de 100 millions d'euros le programme de réforme lancé par Addis Abeba pour libéraliser son économie. Le président français s'est également engagé à accorder un prêt exceptionnel de 80 millions d'euros de l'AFD pour la modernisation du réseau électrique éthiopien, modernisation à laquelle devraient participer des entreprises françaises. À travers cette visite, Emmanuel Macron a voulu marquer le retour de la France en Éthiopie, un peu plus de 2 ans après la fin de la guerre au Tigré. Une partie de l'aide française avait été suspendue pendant cette guerre. Désormais, elle a repris. C'est vrai notamment pour l'aide en matière de défense et de sécurité. Abiy Ahmed s'est dit reconnaissant envers la France, qualifiant Emmanuel Macron de frère, d'ami. Un ami qui, outre les partenariats, aborde aussi parfois les sujets qui fâchent. L'esprit de dialogue qui a prévalu dans la résolution du conflit au Tigré inspirera, je le sais, la résolution d'autres situations difficiles pour parvenir à une paix durable, a lancé le président français, référence directe au conflit en cours dans les régions Oromia et Amhara. Emmanuel Macron a également évoqué l'accord de Pretoria qui a mis un terme à la guerre au Tigré. La France soutient sa mise en œuvre, a-t-il expliqué, en développant des projets dans des régions affectées par le conflit. Un soutien est notamment apporté aux populations les plus touchées, comme comme les femmes victimes de violences sexuelles.
Pierre Firsion, merci à vous. Vous étiez notre envoyé spécial dans la Corne de l'Afrique pour suivre cette tournée du président français. Vous étiez donc avec nous en studio pour nous faire ce récit. Cap, sabre et bâton, nouvel attribut du président tchadien. Mahamat Idriss Déby Itno a officiellement revêtu hier les attributs de maréchal lors d'une cérémonie à N'Djamena, deuxième personnalité de l'histoire du pays à atteindre ce grade après son père à une semaine des élections locales et les législatives qui mettront fin à la période de transition. Le chef de l'État a promis de débarrasser le pays de ses tares. Fin de citation. En Tunisie, le syndicat des journalistes et près d'une quarantaine de parlementaires poussent pour l'amendement du décret loi 54 promulgué en 2022 par le président Kais Saied. Il prévoit une amende de l'équivalent de 15 000 euros et jusqu'à 5 ans de prison pour quiconque publie une fausse nouvelle ou une rumeur. Près d'une quinzaine de journalistes sont poursuivis sur la base de ce texte. Des internautes sont également ciblés. Lilia Blaise.
Mohamed Ali est député et rapporteur de la commission Droits et Libertés au Parlement. Il plaide en faveur de l'amendement du décret-loi.
C'est un décret qui malheureusement va à l'encontre des droits des citoyens, qui entrave leurs droits politiques, économiques et sociaux et leur liberté d'expression. C'est pour cela que nous nous sommes regroupés pour soumettre l'initiative d'un nouveau projet de loi autour de ce décret. Je pense qu'en faisant cela, nous ne sommes pas en décalage avec la réalité du pays. Nous ne sommes pas les seuls à être favorables à la révision de ce texte.
Pour Ziad Dabar, président du syndicat des journalistes, le soutien des députés est un pas en avant, car cela fait 2 ans que les journalistes et défenseurs des droits humains se mobilisent. Mais certains obstacles persistent.
Première phase, il y a eu une dizaine de députés. Aujourd'hui, il y a presque une 57 signatures pour déposer cette initiative. Sauf que le président du Parlement rejette toujours cette idée. On ne sait pas pourquoi.
Et selon la constitution tunisienne de 2022, le pouvoir du Parlement reste très restreint face à celui de l'exécutif. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et puis un tout petit mot de football, puisque la deuxième et dernier tour des éliminatoires pour le championnat d'Afrique des Nations 2025 se poursuit ce dimanche. À suivre, les tenants du titre sénégalais opposés au Libéria à 16h, temps universel, également Centrafrique-Cameroun et Togo-Niger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous avez rendez-vous avec Julien Coquel-Rohem pour la suite des RFI Matin.
Merci Pierre Boudiaz, bon dimanche.